Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
La peur, le sang, le mal. Comme le diable, la violence peut prendre de multiples apparences. Elle peut se grimer en violence psychologique en suivant un groupe de jeunes découvrir une mystérieuse secte dans le fin fond de la Suède, ou alors de manière bien plus explicite avec des séries de pièges sanguinolents qui révèlent les troubles de la victime. D'un bout à l'autre de son utilisation dans le 7e art, la violence est utilisée pour choquer et pour toucher un endroit sensible du spectateur. Bienvenue dans cette émission de Ciné Fight Club, où nous allons partir avec vous, chers auditeurs, dans un féroce voyage au tréfonds du 7e art, pour découvrir ensemble la violence au cinéma. Nous allons parler de sa genèse sanguinolente et de ses différentes utilisations brutales au fil du temps, en passant évidemment par des chroniques et des petits jeux qui ne vous laisseront pas indifférents. Je ne serai pas seul dans cette émission. En effet, je serai accompagné de mes camarades d'art du spectacle. Nous avons Guangda.
Bonjour à tous, je suis Guangda Zhu, étudiant étranger originaire de Chine. Je parlerai des films chinois violents comme Opération Mer Rouge.
Nous avons aussi Pierre.
Oui, bonjour, donc moi c'est Pierre, étudiant en art du spectacle, et moi je vous parlerai, on va dire, de John Wick, et peut-être plus particulièrement du 4e, et donc de la violence dans ces films.
Et enfin de Noé.
Eh bien bonjour, moi c'est Noé, également étudiant en art du spectacle, et on m'a invité à cette émission pour un débat sur Gaspard Noé.
Merci beaucoup. Ça va les gars? Vous allez bien?
Bon, oui, oui, ça va.
Et moi, j'appelle Martin, je serai votre animateur et je vais vous parler du gore au cinéma. Vous n'avez pas besoin de connaître le programme, vous n'avez qu'à me donner vos oreilles et votre attention durant ces 50 minutes. Pendant ce délai, je serai tout à vous. Quoi qu'il puisse se passer de mal, je serai entièrement disponible. Passé cette période, vous serez complètement livré à vous-même, aux dangers de ce monde. Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, à l'apérophonie, et je vais commencer notre aventure en vous parlant du genre gore au cinéma.
Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul.
La violence peut être stylisée, comme chez le célèbre Quentin Tarantino, qui exploite la fin de ses films comme un défouloir, un bal sanguinolent qui ravit ses plus grands fans autant qu'elle encourage ses détracteurs. Lors d'une interview où il se voit demander pourquoi il utilise autant de sang à la fin de ses films, le réalisateur américain répondit par cette phrase culte « Because it's so much fun, Jane !» en français, parce que c'est tellement amusant, Jane. Mais d'où vient cette passion, cet attrait esthétique pour l'exubérance de sang que Tarantino affectionne tant? Elle vient tout simplement d'un genre cinématographique clivant qui s'est imposé dans les années 70, le gore. Le gore est un sous-genre cinématographique du cinéma d'horreur, caractérisé par des scènes extrêmement sanglantes et très explicites, dont le but ne se résume pas à choquer, mais va plus loin et tend vers un idéal de dégoût, de répulsivité. L'objectif est d'inspirer la peur, le divertissement ou le rire. Il trouve ses origines non sans surprise au théâtre, dans une petite salle du 9e arrondissement, à la rue Chaptal, nommée le Théâtre du Grand Guignol, formé par des anciens communards et des nouveaux anarchistes, et qui était spécialisé dans les pièces mettant en scène des histoires macabres et sanguinolentes dans les années 1900. Ces histoires avaient pour origine un spectacle exécuté devant l'aristocratie, qui se terminait en bain de sang pour éclabousser la haute société. Il continua son chemin jusqu'en 1963 et contamina sur sa route le domaine cinématographique, auquel on verra les premières traces du gore dans un des premiers piliers du cinéma, Un chien andalou de Louis Buñuel. Le film surréaliste s'ouvre sur une lune en plan éloigné, avec un nuage à sa droite qui s'en approche. Puis, un cut fait correspondre cette lune et ce nuage avec une lame de rasoir, s'approchant nonchalamment de l'œil d'une femme. On revient sur la lune, qui est transpercée par le nuage, à l'image du plan suivant, qui montre un œil de bœuf qui se fait ouvrir et duquel sort un liquide visqueux et transparent, donnant l'illusion qu'est-ce l'œil de la femme observée en amont. Ensuite, le gore s'est développé en passant par de nombreux films, pour arriver aux mains du réalisateur David Griffiths, dans son film Intolérance. Pour Hollywood, c'était la goutte de trop, eux qui voyaient d'un œil bien plus propre le cinéma que l'on devait montrer au peuple. Ils censuraient alors l'excès de violence, et même la violence tout court, en passant par le code ICE, imposé en 1930, qui interdisait entre autres l'expression explicite de crimes ou de relations sexuelles. Débarrassés de cette règle frustrante en 1950, les réalisateurs étaient libres de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Il connut son âge d'or dans les années 70, dans une société saturée d'images violentes qui constate sans filtre le meurtre de Kennedy en 1963 et la guerre du Vietnam sur toutes les télés d'Amérique. De son origine à son âge d'or, son affiliation politique est donc claire, en se positionnant en tant que reflet cathartique d'une société absurde et outrecuidante. Ce n'est pas pour rien que l'imaginaire du gore a souvent été lié et même imposé au genre punk. Le gore est donc une violence faite aux institutions, un doigt d'honneur gentiment anarchiste qui s'exprime par la démesure de sang et de violence. Avec le temps, ce genre s'est divisé en deux groupes, avec le genre sérieux qui veut nous dégoûter et nous choquer pour provoquer ce sentiment de peur, comme par exemple dans des slashers comme Massacre à la tronçonneuse ou Vendredi 13. Et il y a le genre comique, parodique, qui est une sorte de cour de récréation pour les réalisateurs les plus désaxés, qui utilisent ces codes de manière tellement plus exacerbée que cela devient absurde. Dans ce dernier genre, je vais vous parler d'une pépite du film gore, Brain Dead, réalisé par Peter Jackson en 1992. Le réalisateur néo-zélandais n'en est pas à son coup d'essai. Après son film absurdement sanglant Bad Taste, sorti 5 ans plus tôt, l'homme, derrière la caméra du, je le rappelle quand même, Seigneur des Anneaux, décide de remettre une couche d'hémoglobine dans sa filmographie avec un film culte. En 1957, Lionel, un jeune homme célibataire et timoré, voit sa mère, quelque peu tyrannique, se faire mordre par un singe rat de Sumatra dans un zoo. D'après la légende des indigènes de cette île, ce singe rat est maudit et transforme quiconque se fait mordre en zombie. La mère se fait mordre par inadvertance et contamine peu à peu d'autres personnes. Lionel, désemparé, est forcé de les enfermer dans sa cave, où il se passe de nombreux événements. Je vous le dis, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est volontairement parodique et joue avec les codes du gore et de l'horreur, avec des gros plans désaxés sur les visages, ainsi que les torrents de sang qui s'y déversent, et avec la scène mythique, bien sûr, de la tondeuse à gazon, que vous avez sûrement vue. Et le savez-vous, cette scène qui se trouve à la fin du film a longtemps détenu le record du sang versé en une seule scène, avec environ 3000 litres de sang d'hémoglobine. Il a été détrôné récemment, et de loin par Piranha 3D, avec 300 000 litres de sang en 2010. Il gagne le prix des meilleurs effets spéciaux au Festival international du film de Catalogne en 1992. Ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est son humour absurde, et complètement décapant, qui, je viens l'avouer, m'a fait sincèrement rire à plusieurs reprises. Je pense notamment à la scène où le personnage principal assiste à une relation sexuelle entre deux zombies, entre le prêtre et l'infirmière, et quand plus tard il fait une balade avec le bébé zombie sorti du ventre de l'infirmière, alors le bébé est incontrôlable et veut tuer tout le monde, alors le personnage principal le prend par les jambes et le démonte sur le sol comme un bout de jambon pour le calmer, et il le frappe aussi sur les barres en métal, et ça m'a fait bien rire alors que ce film est assez vieux. Ce film de 1h30 au rythme effréné ne cache pas non plus son côté parodique. Il est très drôle mais aussi lourd de sens, ce qui a aussi attiré ma sympathie. Quand on cherche plus profondément derrière ces visages gluants, ces organes sanguinolents, se cache, si ce n'est un message clair, un cœur plus profond qu'il n'y paraît, avec des dialogues et des références qui forment un sous-texte. On ne peut s'empêcher de voir dans cette relation mère-fils très oedipienne une référence à Psycho d'Alfred Hitchcock. Là aussi, le fils est complètement dominé par l'image de sa mère. Il vit pour elle, comme si la mère voulait le garder dans son ventre, à l'image de la scène du fin du film, où la mère ouvre son ventre pour introduire son enfant. Dans cette même fin, le personnage masculin avoue sa peur qu'il ressent vis-à-vis de sa figure maternelle. Plus subtilement, on devine que la maison de Lionel et sa mère ressemble étrangement à celle du film d'horreur phare des années 60, et que l'effet vertigo utilisé en milieu de film n'est pas là pour rien. Je vous le conseille donc, Brain Dead, sorti en 1992 par Peter Jackson, est disponible dans son intégralité sur YouTube. Assez parlé de sang, nous allons maintenant nous détendre l'atmosphère avec un petit jeu. Vous pourrez jouer chez vous, chers auditeurs. Une personne va décrire un synopsis à caractère violent ou horrifique, et les deux autres personnes vont devoir le deviner le plus rapidement possible. C'est bon, ça vous branche? On y
ouais,
va
ouais, ouais,
ouais, ouais. Nickel.
Alors Pierre, je t'en prie, commence à nous décrire un synopsis.
Donc je peux commencer. Après, effectivement, ça va être, comme tu l'as dit, c'est plutôt des films qui sont violents, pas forcément des films d'horreur.
Bien sûr, bien sûr.
Mais voilà.
Allez, je t'en prie.
Donc, premier synopsis.
Allez-y.
Vous êtes prêts?
Ah, je suis prêt.
Donc, c'est l'histoire d'un homme qui adore la musique. Voilà, il est passionné de musique. Il a un bon job. Il gagne bien sa vie.
Ouais.
Après, bon, voilà.
Il fait quoi comme musique? Il fait du rap? Il fait du punk?
Il fait pas de musique. Il en fait pas lui, mais lui, il aime bien l'écouter.
Okay.
C'est un mélomane. Il aime bien aussi se faire de bons restos, s'acheter des objets de luxe. Voilà, Tout ça, il aime bien.
Ok.
Mais Picsou, voilà.
Picsou Magazine ?
C'est pas ça, non.
Ah merde. Okay.
Ça doit être un film, je rappelle.
Ah, pardon.
Mais donc, voilà, le truc, c'est que parfois, il dérape.
Mmh.
Et donc, parfois, il découpe des gens, par exemple.
Waouh. Alors, c'est hyper. La transition est assez rude.
Je peux vous donner des indices sur avec quoi il le fait, par exemple. Après, je veux pas trop en donner parce que ça va être trop rapide, je pense.
Un mec qui aime beaucoup la musique et qui tue des
gens. Ouais. C'est quelqu'un qui prend soin de lui aussi.
Je crois que j'ai le truc.
Tu vois ?
Est-ce que c'est American Psycho ?
Oh là là.
Ça a été trouvé.
Je n'ai jamais vu ce film en plus.
Jamais. Ah ouais.
Un bravo à toi. C'est très très bien. Je n'ai pas eu l'ombre d'un indice.
Ah oui ? Mais tu l'as vu ?
Je ne l'ai pas vu non plus.
Ah.
On enchaîne avec un deuxième synopsis. Qui veut se lancer ?
Bah, tu peux y aller, je pense.
J'y vais ?
Vas-y,
ok,
ouais,
j'y vais. Vas-y. Alors, mon synopsis, c'est l'histoire d'un homme qui voit sa femme se faire tuer sous ses yeux par un tueur en série. Ce tueur l'assomme ensuite à son tour, et l'homme se réveille après être assommé en remarquant que ses enfants ont aussi été tués, mais il n'en reste plus qu'un. Et du coup, cet enfant qui reste se fait kidnapper par un mec, et le film repose sur le père qui va le chercher dans son long voyage. Un voyage très risqué.
Oula. Alors attends, parce que là c'est...
C'est assez rude.
Et donc l'histoire elle est du point de vue de l'enfant qui s'est fait kidnapper.
Non, l'histoire est du point de vue du père qui va chercher son fils.
Hmm.
C'est le seul rescapé du massacre.
C'est un film d'horreur ?
C'est un synopsis horrifique. Et je vous laisserai là-dessus.
Ouais, tu ne donnes aucun indice.
C'est compliqué.
Je répète.
Est-ce que tu n'as pas d'autres indices, de nouveaux indices ?
C'est l'histoire d'un homme qui voit sa femme se faire tuer sous ses yeux par un tueur en série. Il assomme et tout. Un autre indice, c'est une aventure. Ce film, c'est une aventure.
Qu'est-ce qui est violent dans le film ?
Ah. C'est Nemo.
Oh là là, il est fort.
Putain, je suis trop fort.
Bravo à toi. Génial. Effectivement, c'est Nemo, avec un synopsis très horrifique.
Ouais, effectivement, pourtant, c'est horrifique. C'est très horrifique.
Qui nous a marqué.
Ça m'a traumatisé quand j'étais gosse.
Moi aussi, on est ensemble. Noé, je t'en prie, à toi.
Tu peux essayer.
Moi, j'ai vraiment fait un synopsis juste avant d'arriver. c'est un mariage gay en Italie. C'est une grande fête. Ils font une grande bouffe. Ils mangent beaucoup. Mais en fait, ouais, ça tourne mal parce que il se rend compte que sa belle famille, c'est un peu des fachos, quoi.
Alors,
le guépard.
Non. Est-ce que tu sais que je... Parce que je pense que je n'ai pas vu le film, mais je pense que... Est-ce que c'est Salaud ?
Eh oui, c'est Salaud ou les sauvages en de Sodome.
Okay. Beaucoup plus quelque part dans l'horrifique. Hein, on est passé de Nemo à Salaud. Hein,
oui, la transition, on aime bien travailler dans les contre-coups. Est-ce qu'on a un dernier synopsis à présenter ?
Ouais, je peux en faire, j'en ai même un troisième si c'est trop rapide.
Balance la sauce.
Donc, c'est l'histoire de deux flics. Ils ont des caractères très différents.
Ouais.
Et donc ils sont sur une enquête, voilà, ils essayent de régler des affaires de meurtre et ils sont à la poursuite d'un tueur chauve. Donc voilà, c'est. Donc est-ce que vous avez une idée, juste comme ça ?
Deux policiers qui sont dans la chose. Si, je l'ai.
Tu l'as ?
Je l'ai très facilement. Seven ?
C'est Seven.
Let's go !
J'ai voulu parler de boîte en carton, mais je me suis dit que ça allait être beaucoup trop facile.
What in a box ?
C'est voilà, ça, je voulais même pas le faire non plus, mais tu le fais bien.
Vous en faites ce que vous voulez, c'est mon film préféré. Donc malheureusement, tu as été prise au piège.
Et donc si tu veux, j'en ai un dernier si jamais.
Vas-y, je t'en prie, fais assez vite. Sinon
donc, c'est une histoire de vengeance. Vite. Ah ouais, une histoire de vengeance. C'est une bande de mecs qui aiment bien faire des scalps à des gens pas très gentils. Je sais pas si...
C'est un Tarantino, c'est Inglourious Basterds.
Oh là là, oui.
Voilà, c'est allé vite.
C'est facile. Bon, j'ai trouvé, moi aussi le trouvé, mais j'ai pas voulu dire pour pas humilier tout le monde. Donc j'espère qu'on a su relaxer l'ambiance pendant un temps. Et on replongera dans un bain de sang en parlant d'un film chinois et de la violence dans les films dans ce pays, juste après une pause musicale. de retour dans notre épopée sauvage sur Radio Campus 90.8 à l'apérophonie. Je suis toujours avec Pierre, Noé et Gangda. Gangda qui va nous parler du film chinois Opération Mer Rouge. Alors Gangda, est-ce que tu as aimé le film Opération Mer Rouge? Et si oui, pourquoi?
Je pense qu'il faut répondre à sa question sur deux angles différents. Du point de vue du contenu du film, je pense que sa production est assez réussie et que le réalisateur a déjà dirigé plusieurs films sur ce thème. Donc, ses compétences personnelles ne sont pas en cause. La logique de l'histoire et les effets spéciaux sont également bien réalisés. Ce film a gagné un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions d'euros en Chine. Cependant, du point de vue politique de ce film, je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Comme la Chine a une censure stricte sur les films, presque tous les films sont interdits de contenir des éléments de violence ou des sexes, et même la scène où les gens fumant sont interdits aussi. Alors pourquoi les films Opération Mer Rouge, ils peuvent utiliser des éléments de violence? C'est parce que ce film a un thème patriotique et a été réalisé en collaboration avec la marine chinoise. Je pense que c'est un privilège inégalitaire. Les films patriotiques ne sont pas soumis à la censure, tandis que les autres films doivent être soumis à la censure. Les films perdent leur liberté et ne sont plus un art, mais un outil de propagande politique.
Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que la Chine a des codes bien différents de l'Europe et soumis aux règles de la censure. Et du coup, Gwanda, est-ce que tu aimes, est-ce que pour toi la violence est nécessaire dans les films?
Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de films violence car je n'ai pas été très exposé à ce thème en Chine. Cependant, je pense que les éléments de violence dans les films sont nécessaires. Freud a montré en psychanalyse que la conscience humaine est constituée du moi, du surmoi et du ça, dans lesquels le surmoi et le moi exercent une fonction de précession sur les irrationnels du ça. Cependant, le désir du ça ne peut pas être effacé. Par conséquent, les éléments de violence dans les films permettent au ça des gens de se libérer de manière inoffensive. En outre, Deleuze pense que les films peuvent attirer les spectateurs car ils peuvent susciter une expérience corporelle. Des spécialistes américains du cinéma comme Steven Shamiro, qui continue d'étudier cette question, a développé le concept de groupe cinématographique. Il a expliqué que le cinéma cache la proximité de la violence dans l'esthétique. Donc, je pense que les éléments de violence dans les films sont nécessaires.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Gwanda. C'était très intéressant. Nous avons un second jeu qui va stimuler votre créativité morbide. Je vais passer des extraits à caractère violent et vous allez devoir deviner comment ils ont été faits.
Et on peut avoir peut-être un point bonus si on découvre le film aussi.
Et vous avez un point bonus, oui, exactement. Et vous avez un autre point bonus si vous l'avouer, l'avoir déjà fait, l'activité morbide. Ouais, on est vraiment...
On en est là.
Ici, on accentue et on encourage la violence. Alors, on y va? C'est bon, on y va avec l'extrait 1? C'est donc des os qui craquent, une nuque qui se brise. D'où vient ce son? J'ai 4 réponses à vous proposer. Réponse A, c'est le bruit d'un céleri branche. Réponse B, c'est le bruit d'une branche d'arbre qui se brise. Réponse C, c'est le bruit de noisettes concassées. Et réponse D, c'est un vrai figurant qui pensait venir pour un film. En fait, on lui a brisé la nuque.
Hmm. C'est évidemment la dernière réponse, je pense.
Ouais.
Non, moi, je dirais le céleri, parce que les autres sons sont trop secs, tandis que le céleri, il a un truc un peu organique, mais...
Moi, j'aurais dit le céleri aussi.
Ouais. Ouais, on part sur le céleri? Eh bien, la réponse, c'était un vrai figurant qui venait et qui s'est fait briser. C'est faux, c'était vraiment un céleri. Bon, bravo à vous. Ah, effectivement, okay. La réponse A, le bruit d'un céleri branche. Qui vient ornementer, qui vient organiser les bruits d'os qui se brisent dans les films. Nous avons maintenant, on passe à l'extrait 2, si vous le voulez bien.
Ouais, bah ça nous a donné faim, je pense.
C'est le bruit d'un alien mangeur d'humains dans un film d'alien, dans le jeu même Halo Infinite. Est-ce que vous avez la référence? Alors, réponse A, c'est un petit chien mignon, tranquillement. Réponse B, c'est un aspirateur de maison. Réponse C, un mixeur de légumes. Ou réponse D, une tronçonneuse qui coupe la coque en métal du Titanic enfouie 6 pieds sous terre dans la mer.
Hmm. Vas-y, je te laisse.
Vos jeux.
Ouais, je dirais le mixeur de légumes.
Mixeur de légumes?
Oh là là.
Ouais. Intéressant.
J'aurais dit la même chose en vérité.
Le mixeur de légumes?
Je pense que
c'est ça que t'as la réponse, toi, attends.
Non, je vois pas, t'inquiète, okay. je la vois pas.
Ouais, ça, je pense que c'est Alberto, il a mis une capote sur le micro, il a foutu dans le mixeur et voilà.
C'est Nick, peut-être. Qui a des liens un peu bizarres. On part sur un mixeur du coup.
Ouais, je pense. Je partirais sur un mixeur. Ouais.
Et ben, c'était tout simplement un petit chien mignon. C'était un carlin, un chien qui mange, qui grignote des choses, tout simplement.
D'accord, ok.
Maintenant, on passe au troisième extrait, hein, toujours dans cette aventure cambolesque de bruit horrible. C'est parti pour le troisième extrait. Alors, je pense que vous avez reconnu, c'est le T-Rex dans Jurassic Park.
Ouais.
Oh là là, pardon, excusez-moi, je sais de vous parler. C'est vrai que je parle à l'air du spectacle, je parle à des fous de cinéma. Alors, ce bruit a été fait en un mix, un cocktail de bruit. Les deux premiers sont le reflux d'air d'une baleine et le grognement d'un alligator. Mais que sont les deux autres sons qui composent ce grognement? Nous avons en réponse A, un dauphin en chaleur et une girafe agonisante. Nous avons en réponse B, le rugissement d'un lion et le cri d'un bébé éléphant ralenti. En réponse C, un chat qui miaule à l'envers et un singe qui crie. Et en réponse D, un vrai dinosaure et moi quand j'hurle de douleur après m'être pris le petit doigt dans un meuble chez moi.
C'est vrai que la D peut être pas mal, mais...
compliqué à chaque fois, ouais.
Mais je crois que t'étais pas né au moment de Jurassic Park.
Bah ça, faudrait vérifier, je suis pas sûr.
Du coup,
un vrai T-Rex.
Je partirais sur la B.
Le rugissement d'un lion et le cri d'un bébé éléphant au ralenti.
Ouais, le bébé éléphant au ralenti, ça me semble pas mal sur la fin du truc, quoi. Donc,
moi, je serais plus parti sur le chat à l'envers, le cri du chat à l'envers.
Et pourquoi ça?
Oh, ça me parle bien.
Ça te parle?
Ouais, j'ai jamais écouté, mais je pense que ça donnera à peu près ça.
Eh ben, faites vos jeux, c'est effectivement la réponse B. Le rugissement du lion et le cri d'un bébé éléphant ralenti. Avec le reflux d'air d'une baleine, je rappelle que c'est un peu unique. Le reflux d'air d'une baleine et le grognement d'un alligator.
Ils sont allés les chercher loin, leur bruit. Hein.
Bah, c'est pour faire un film quand même culte. Ouais. Nous avons quatre animaux qui font un mélange pour faire un cri d'animal. Je trouve ça magnifique. Est-ce que ça vous a plu, ce petit jeu?
Bah, ouais, on a appris des choses, je pense.
C'était nickel?
Je suis heureux.
Eh ben, nous allons écouter maintenant la chronique de Pierre qui va parler, entre autres, de l'actuelle violence avec le film John Wick. Juste après, une pause musicale.
In
Et nous sommes de retour à l'apérophonie sur Radio Campus 90.8 pour parler de la violence dans le cinéma. Et je vais donner le tibia de la parole à mon cher Pierre qui va nous parler de John Wick et de sa violence.
Oui, donc on vient d'écouter Think de Kalaïda, qui est une musique d'ailleurs qui passe dans le premier John Wick, donc ça me fait une bonne transition. Donc déjà, je me demande si tout le monde ici connaît John Wick, je sais pas si...
Je connais, j'ai jamais vu, mais je connais.
Jamais vu. Et ben, en tout cas, pour tous ceux qui connaissent pas, je vais revenir un peu sur qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement. Donc John Wick, c'est une saga de 4 films, en tout cas à ce jour, et on pourrait dire que c'est une franchise cinématographique. Le premier opus, il est sorti en 2014, et il s'intitule très sobrement John Wick. Il sera suivi de John Wick chapitre 2 en 2017 et en 2019, vous l'aurez compris, du chapitre
8
ou du chapitre 3, mais c'est pas grave. Bon. Et donc le film dont je vais un peu plus parler tout à l'heure en détail, c'est plutôt le dernier chapitre, le quatrième. Et donc si jamais les suites vraiment trop nombreuses, ça vous énerve, ce chapitre 4, c'est le dernier. Donc on est tranquille. Donc de quoi ça parle ? Eh bien, il y a plusieurs choses qui ont fait la renommée de cette franchise, mais l'une d'elles, elle réside dans la simplicité quelque part de son intrigue. Donc on y suit un ancien tueur à gages, qui est joué par Keanu Reeves, ayant pris sa retraite pour vivre sereinement avec sa femme. Manque de bol, celle-ci meurt d'un cancer et lui laisse comme cadeau d'adieu un chiot pour l'accompagner dans son deuil. Donc malheureusement, encore une fois, il a vraiment pas de chance, il est cambriolé peu de temps après par le fils d'un grand mafieux qui va tuer ce chiot et va voler sa voiture. Donc bon, c'est pas très sympa.
Ah ouais, horrible.
À partir de là, il va vouloir se venger, comme tout un chacun, je pense, quitte à retomber donc, dans le milieu qu'il avait réussi à fuir. On se rend alors compte qu'il n'était pas un simple tueur à gages, mais une légende connue et crainte de tous, et même surnommée le croque-mitaine. Donc vraiment un tueur à gages, deux tueurs à gages. Il est vraiment au top de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est l'histoire du premier volet. Et c'est ce qui a posé les bases pour les trois suivants. Donc je ne vais pas résumer la suite qui va quand même se complexifier un peu. Mais tout de même, le plus important, c'est que cette simplicité du seul contre tous, de l'homme face à l'organisation, elle va être conservée. Là où ces films sont quelque part intelligents, c'est que tout en se prenant au sérieux, ils restent conscients de leur base qui est quand même vraiment archétypale, à tel point qu'ils en jouent. Ils vont jouer notamment à faire des références un peu humoristiques à leur propre synopsis ou même à la répétition dans les films. Enfin, il y a vraiment un jeu autour de ça. Et donc ces films savent également où se trouve leur force. Et donc là, vous vous demandez qu'est-ce qui fait leur force ? Eh bien, c'est l'action. Dans les films John Wick, c'est l'action qui va vraiment être le cœur du film. Et c'est ce qui va être mis au premier plan. Et la manière dont Chad Stahelski, donc le réalisateur de tous les films, va mettre en scène cette action, a apporté, avec déjà le premier opus en 2014, un certain vent de fraîcheur dans l'industrie des films d'action. Celle-ci, elle est filmée, à la différence de nombreux blockbusters jusque-là, en plan séquence, et elle donne la part belle aux cascades et à la performance des comédiens, qui n'est pas coupée. Donc voilà, on voit beaucoup en fait, des scènes de combat sous un seul angle, ou deux à la limite, mais pas sous plein d'angles. Donc ça permet d'avoir une meilleure visualisation des chorégraphies et en fait de la violence en quelque sorte. Donc bref, si vous ne saviez pas ce qu'était John Wick, maintenant vous devez vous faire une idée un peu plus précise. Donc si j'en parle aujourd'hui, c'est déjà parce que le quatrième chapitre est sorti récemment, le 22 mars dernier, et que ce sont des films qui mettent en scène des actions qui sont violentes quand même. C'est-à-dire ils tuent des gens tout le film. Je pense qu'on peut dire que c'est violent.
Ça dépend du point de vue, pour moi,
ouais,
c'est bon.
Moi, je pense qu'on peut le dire. Donc, ce John Wick 4 est d'après moi une réussite. Le film dure presque 2h50, ce qui est très long. Mais il exploite cette durée et se montre très généreux en scène d'action, ce qui est finalement une qualité pour un film d'action, je pense. Les cascades sont toujours plus mises à l'honneur et on sent l'originalité dans les situations où elles prennent place. Je pense notamment à une scène autour de l'Arc de Triomphe, qui est assez original dans la mise en scène avec beaucoup de voitures, c'est très impressionnant et voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vu, en tout cas moi je l'avais jamais vu avant, ou une autre sur les escaliers qui mènent au Sacré-Cœur, encore une fois un certain jeu avec la mise en scène, avec l'idée d'escalier qu'il faut monter, qu'on redescend, qu'on remonte, voilà, il y a vraiment un jeu autour de ça. Donc la deuxième partie du film est la meilleure, le rythme y est très bien dosé et la mise en scène s'inspire de manière plus ou moins explicite du jeu vidéo et d'après moi elle le fait avec brio. On sent un véritable amour pour les cascades à travers des combats qui sont chorégraphiés à la perfection et qui en deviennent en fait même ludiques pour le public. Et c'est là quelque part où je veux en venir, c'est que je trouve que la violence dans les films John Wick, elle est en fait elle est drôle, elle est ludique. Notamment, enfin dans John Wick 2 et 3, il y a une violence qui est quand même plus présente et plus crue, mais ça n'empêche pas les films de rester ludiques, en fait. Et en fait, on va beaucoup se demander quelque part comment John Wick va s'en sortir, avec quels outils il va pouvoir vaincre ses ennemis, et en fait, voilà, quelle chorégraphie il va mettre en place. Donc c'est un peu un jeu avec le spectateur. Donc c'est donc une proposition généreuse, aussi bien visuellement travaillée, inspirée, que chorégraphiquement. Et donc voilà, comme je disais, il va y avoir, voilà, autour de cette violence, on va vraiment s'amuser avec John Wick. Et de plus, ce volet, donc le quatrième, va clore la saga et le fait de manière assez satisfaisante, surtout dans une ère où les franchises, voilà, s'étirent éternellement. Donc si vous n'aimez pas la bagarre et préférez les longs dialogues, bah, ce film, il n'est pas fait pour vous. Mais si les boîtes de nuit et l'action bien réalisées, bah, c'est deux passions, et bah, foncez le voir.
Ah, merci beaucoup. Et du coup, tu as aimé le film en conclusion, j'imagine ?
Bah oui, j'ai bien aimé. Mais je pense que ça s'est entendu.
Ça s'entend. Et c'est vrai qu'en de manière générale, je pense que tu aimes beaucoup la violence.
Oui, voilà, on peut le dire.
J'ai fait des soirées avec toi. Bon, il y a un Pierre sombre, il y a un Dark Pierre.
Exactement, exactement.
Et enfin, en conclusion, merci beaucoup, c'était très intéressant, Pierre. Comment parler de violence sans parler de Gaspard Noé, ce réalisateur très, 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 très clivant. Pierre, je te laisse présenter le film sur lequel on va prendre appui pour ce grand débat final. À ton honneur. Peut-être. Après, évidemment, eux ont un petit intermède musical. C'est parti.
Donc Irréversible, donc oui, je vais le présenter rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc c'est un film du réalisateur français Gaspard Noé, donc comme tu l'as dit, qui est un réalisateur qui est quand même assez clivant. Le film, il est sorti en 2002 et il a été présenté au Festival de Cannes cette même année. Bon, voilà, c'est un film qui a fait scandale au Festival de Cannes. Il a créé une polémique assez importante du fait de sa violence. Bon, alors de quoi ça parle rapidement? C'est un film, déjà, il faut le savoir, qui est narré de manière antéchronologique. La fin, comment dire, le début du film est en fait la fin de l'histoire. Et donc ça parle quelque part d'un viol et du compagnon de la femme qui est violée qui va essayer de se venger, et donc qui va rentrer dans une spirale quelque part de violence. Et donc qu'est-ce qui a choqué dans le film? Et ben en fait, c'est deux scènes en particulier qui ont choqué. Une qui se trouve au tout début du film, qui est une scène de meurtre. Alors, je sais pas si on donne les détails.
Trigger warning. Trigger attention, warning, c'est vrai, voilà. Qu'on va parler d'un film très très choquant.
Très choquant.
Et très qui touche des choses comme le viol ou le massacre.
Donc,
être sensible.
La première scène du film. Enfin, il y a deux scènes qui ont choqué. La première, c'est une scène de meurtre qui se fait à l'extincteur. Voilà, donc un crâne qui est fracassé. Donc voilà, je pense qu'on s'y référera par la scène de l'extincteur, si jamais.
Oui.
Et la deuxième scène, qui est peut-être la plus célèbre, c'est une scène de viol que Gaspard Noé, en fait, a filmée en plan séquence, posée, de plus de 10 minutes. Alors, c'est pas exactement...
15 minutes, 3.
Ah, 15 minutes. Après, il faut préciser que le film est entièrement en plan
séquence. Le film était...
Mais voilà, ça ne cut pas.
C'est ça. Mais donc voilà, c'est ces deux scènes qui ont... majoritairement choqué, surtout celle du viol qui est restée
dans les annales.
Voilà, qui est restée dans les annales. Donc, je sais pas, je vais peut-être vous poser la question de qu'est-ce que vous en avez pensé, peut-être d'abord toi, Martin.
Alors, c'est parti, on va rentrer dans la fosse au lion, dans le combat de gladiateurs. Moi, je n'ai pas aimé ce film. Je trouve effectivement assez intéressant les trois côtés que j'ai beaucoup aimé dans sa filmographie, mais je trouve que le film de Gaspard Noé, sa filmographie en général, est très choquante et n'a pas sa place dans le Festival de Cannes et surtout dans le monde du cinéma. Je trouve que cette scène et ce film étaient trop choquants, c'était du trop, du surplein, et ils n'avaient aucune vocation artistique. Pour moi.
Je pense qu'on va pouvoir laisser réagir Noé qui... Bon, on va le voir plutôt défenseur.
Je suis outré de ses propos. Enfin, là, tu tombes quand même dans une espèce, j'aime bien le dire, de puritanisme, dans la censure. Enfin... Non, moi je trouve que ce film est quand même très très intéressant, et même, surtout de ce point de vue de la violence, c'est sûr que Gaspard Noé, on va pas le cacher, c'est un réalisateur qui est provocateur et qui cherche à l'être, mais il y a aussi autre chose derrière que cette provocation. Enfin, ce film, on peut pas ne pas le considérer comme une œuvre d'art, déjà, enfin c'est...
Alors pour moi, il y a débat déjà là. À partir de quel moment un film violent et à partir de quel moment un film est trop violent. Et pour moi, il est tellement violent que ce n'est plus de l'art, en fait.
C'est un artiste et il est totalement libre de créer ce film. Et d'ailleurs, cette liberté, elle va très loin puisqu'il va briser justement certaines règles, quoi. Il va briser cette règle de la violence gratuite. Dans d'autres films, d'ailleurs, d'autres règles qui sont un peu été instaurées au cinéma. Donc, par exemple, on ne tue pas des enfants. Enfin, il va... Pas dans ce film-là, parce qu'il n'y a pas d'enfants, mais dans d'autres films, il va tuer des enfants. Il est totalement libre de faire son art. Et au contraire, je pense qu'il a toute sa place au Festival de Cannes, parce que ce serait dommage de rester dans un entre-soi avec toujours le même genre de film. Et d'ailleurs, on l'a vu dernièrement, parce qu'en 2021, c'est Titane qui a gagné la Palme d'Or, donc un film aussi assez choquant, assez violent. Les choses commencent à changer et on a beaucoup plus de diversité dans le cinéma, particulièrement en France, parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal à faire du cinéma de genre, du cinéma qui va être violent, du cinéma d'action, un Rape and Revenge ou d'autres films horrifiques ou même de la science-fiction, quoi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France. Et en tout cas, moi, je trouve ça bien d'avoir des propositions comme ça, françaises, qui sont radicales.
Tu disais le Rape and Revenge, donc qui est un sous-genre du cinéma d'horreur, je pense qu'on peut le dire, qui part du principe d'un viol et une vengeance... par la suite, tout est dit dans le titre, tu me diras.
Tout est dit. Alors moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que je pense qu'on peut considérer que Gaspard Noé est un artiste, mais pour moi, il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est pouvoir tout montrer, pouvoir tout exprimer sous prétexte que c'est de l'art. C'est-à-dire que si on dit ça, dans ce cas-là, je peux tout faire et dire que c'est de l'art. Et si on va plus loin, si je fais cette chose-là, plus rien n'est art quand tout peut l'être, en fait. Et dans le film de Gaspard Noé, dans Irréversible, même dans toute sa filmographie, le réalisateur, il s'amuse à tout le temps être... passer la ligne, même pas jouer sur la ligne, il passe complètement la ligne du trop, du censure, de la violence. Et pour moi, la violence est beaucoup trop présente pour que ce soit dans un cadre artistique et respectueux. Et il ne faut pas... Dans Titane, tu l'as cité, je trouve ça très bien dans ce film parce que, ce film choque aussi le bourgeois, il y a une volonté de choquer évidemment. Mais les scènes de violence sont traduites, sont expliquées dans la dramaturgie, ils sont... s'inscrivent dans le scénario et c'est agréable. Tandis que dans Irréversible, tu l'as dit, des plans séquences de 15 minutes sans cut de viol. Et ensuite, pour couronner le tout d'une scène qui est déjà extrêmement violente, le mec sort, il arrête, il a fini et il fracasse le crâne de Monica Bellucci dans le film sur le sol et évidemment c'est pas coupé. Alors pour moi, c'est juste faire ça pour choquer et ça ne sert à rien, c'est choquer pour choquer. C'est dans ce cadre-là que je dis que c'est plus artistique, c'est juste une expression de quelqu'un qui veut avoir un but. Qui s'inscrit pas dans l'art pour moi.
Okay. Mais tu disais, on peut tout faire, mais si tu veux, il y a quand même eu un cadre, c'est-à-dire qu'il fait un film qui est quand même qui a une certaine durée, qui peut être projeté en salle. Je sais pas combien de temps dure le film, mais il dure
une heure et demie.
Une heure et demie, oui, il est dans les
versions courtes. Il y a une version longue, une version courte, mais ouais, version courte, une heure et demie.
Mais voilà, il le fait quand même dans un cadre filmique. Il utilise des moyens qui sont cinématographiques, après qui dépasse effectivement des limites. Mais il utilise quand même le moyen du plan séquence, qui va mettre en scène aussi à sa manière. Hein, parce que tu dis que c'est gratuit, mais quelque part, c'est quand même, moi je trouve, très bien intégré au scénario. C'est-à-dire que ça paraît pas sorti de nulle part. C'est dans la diégèse du film, ça paraît logique. Ça va loin et la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher, je pense que c'est le fait qu'il choisit de le montrer. Mais je trouve qu'il choisit de le montrer à travers une mise en scène qui est quand même travaillée. Alors effectivement, ça reste cru, mais voilà, la mise en scène, elle est quand même très particulière. Personnellement, je l'avais vu nulle part ailleurs, ce côté caméra qui est très shaky, qui en fait, effectivement, ce sont des plans séquences, mais la caméra bouge énormément quand même. Alors même des réalisateurs qui sont du dogme 93, je crois, c'est ça ?
95,
qui, voilà, même eux ne bougent pas autant leur caméra. Là, il y a quand même vraiment une volonté de mettre en scène la chose de manière particulière. Donc pour moi, c'est quand même une façon d'avoir pensé cette violence-là. Et personnellement, j'aime bien ressentir quand même des choses que je n'ai pas l'habitude de ressentir quand je vois des films. Et voilà, moi, le film m'a mis dans un état, m'a quand même traumatisé, on va le dire. Mais il m'a fait ressentir des choses fortes. Que j'ai pas l'habitude de ressentir au cinéma, voire que je n'avais jamais ressenti au cinéma. Et ça, moi, je ne peux que le louer.
Ah, mais ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'effectivement, il a réussi sa première mission du cinéma, Gaspard Noé, parce que le cinéma doit nous faire ressentir des choses. Et effectivement, la filmographie de Noé nous fait ressentir beaucoup de choses. Je prends l'exemple de Love, comme tu as dit, où parfois le plan, il filme un gros plan sur un sexe masturbé par une femme. On voit l'éjaculation en gros plan et tout. Alors, oui, certes, il nous fait ressentir des choses, mais dans quel but ? Pourquoi ? Et surtout. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de montrer une éjaculation ? Pour moi, c'est... Il nous fait ressortir des choses, certes, mais c'est trop et c'est pas... c'est pas sain. Et le film Irréversible, avec la scène de viol, il pouvait très bien montrer la scène de viol pendant quelques temps, ça je peux comprendre, mais le fait que ce soit 15 minutes sans cut, ça c'est problématique pour moi.
Ah, mais tu vois, quelque part, si ça t'avait pas choqué, est-ce qu'il aurait...
Non, mais, si.
Est-ce qu'il aurait réussi à toucher
15 secondes du viol?
Je pense que Noé veut...
Déjà, Martin, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit déjà tout à l'heure. Enfin, je pense que déjà... Bah, c'est pas toi qui décide, c'est pas, fin, c'est
ah,
pas
oui, pour
toi
moi,
qui...
Pour moi. Peut-être pas précisé.
Qui... Enfin, on peut... Le film est considéré comme une œuvre d'art, on n'a pas à remettre en question ce statut-là. Après, même si on peut la trouver très choquante, on peut la détester, ce statut-là, il est fixe. Quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Ensuite, oui, c'est vrai que j'ai dit que cette violence est gratuite, mais après, elle n'est pas non plus insignificative.
Tout à fait.
D'ailleurs, pour moi, elle s'intègre dans une mise en scène qui est très très bien réalisée. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ça choque. Enfin, c'est pas un film qui est juste gore et dégueulasse. Enfin... C'est pas du torture porn, enfin, sinon ce serait juste un AV, on serait pas là à en parler. Moi je pense que ce film, il y a quand même une grande influence et après on vit dans une société, on vit dans une saucisse. c'est vrai qu'on vit dans un monde aussi de plus en plus violent, on est exposé beaucoup à de la violence qui est pas forcément expliquée, qui a pas forcément de sens, juste dégueulasse. On est tout le temps couvert d'images sans prendre de recul dessus, sans forcément avoir de compréhension. Et je pense pas que ce film soit un produit, mais une conséquence de ce monde-là. Et surtout, on nous met... En fait, la violence, elle est tellement intégrée aujourd'hui dans le cinéma, c'est une toile de fond, c'est un décor, mais on prend jamais vraiment le temps de la regarder en face. Et ce film, il nous met face à la violence, mais pas n'importe quelle violence, parce qu'il nous met face à un viol. Et c'est vrai que le meurtre... Il est énormément banalisé en cinéma. Dans quasiment tous les films, il y a des meurtres, il y a du sang. Alors que dans la société, le meurtre, c'est pas banalisé. Quoi. C'est un des crimes les plus odieux qu'on puisse commettre. Et à l'inverse, le viol, il a pendant très longtemps été banalisé. Il l'est toujours aujourd'hui, un peu moins grâce aux luttes féministes. Et pourtant, au cinéma, ça choque. Enfin, je pense qu'il faut aussi faut creuser sur ce côté-là aussi. Quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je pense qu'effectivement, il y a cette chose qui a beaucoup fait polémique, parce qu'à mon avis, il y avait ce côté un peu tabou aussi qui entourait le viol, à mon avis. En tout cas, à l'époque, en 2002, mais encore aujourd'hui, je pense, d'une certaine façon.
Je pense que ce qui a choqué, Noé, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est le fait de le montrer. Effectivement, la société est très violente, et Gaspard Noé, d'ailleurs, le revendique pour défendre son film. Il dit « Je filme juste la société qui est effectivement très violente. » Mais dans ce cas-là, le scénario est très bien, est réversible, a des bons côtés et tout ça, mais c'est juste cette scène qui me dérange beaucoup. Et dans ce cas-là, si demain je fais un court-métrage où je tranche la tête de quelqu'un véritablement, et que je fais un film, ça peut choquer, ça va choquer évidemment, parce que c'est une tête coupée. Mais on va dire que c'est nul, parce que le film est nul. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencie mon court-métrage où je tranche une tête du film d'Irréversible, où c'est un viol montré en avant, mis en avant?
Et justement, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, je trouve effectivement qu'il y a quand même une mise en scène qui est quand même très bonne. Comme tu disais, le film, c'est pas vrai. Simplement quelqu'un qui a aucune technicité, qui arrive et qui... Bon, on sent quand même que le mec, il est quand même assez bon. Notamment la scène de l'extincteur qui a inspiré d'autres cinéastes par la suite, parce que moi qui suis quand même habitué à voir des films, quand j'ai vu cette scène, je ne voyais pas le trucage. Je ne comprenais pas. C'est aussi ça qui m'a choqué, c'est que j'avais l'impression d'assister à un vrai meurtre. Donc il y a quand même quelque part une certaine maestria dans la façon dont Gaspard Noé met en scène la violence. En tout cas, moi, cette scène m'a vraiment choqué parce que je trouve qu'elle est très bien mise en scène. Donc, c'est aussi ça où je pense que peut-être que ce serait la différence, c'est que si toi, tu prenais une caméra, ça serait... Après, je ne remets pas en question tes talents, mais ce serait peut-être un peu nul parce que tu n'es peut-être pas très bon à filmer des choses violentes. Tu vois, je ne sais pas.
Je suis à deux doigts de partir sur la violence en direct à la radio. Mais vas-y, je t'en prie, continue.
Du coup, pour la mise en scène de cette scène de viol, tout à l'heure, on parlait de Salo. Et c'est vrai que, en tout cas, cette scène-là s'inspire de Salo dans sa façon de mettre en scène le viol. C'est-à-dire que déjà, c'est un plan fixe, alors que la caméra, tout du long, jusque-là, elle était très shaky, comme tu l'as dit, Pierre. Donc, en fait, le seul moment où elle se pose, où on se dit « on va enfin pouvoir respirer », c'est une scène qui est irrespirable, qui est étouffante. Et surtout, on la regarde avec distance. C'est-à-dire que la caméra se pose assez loin. On regarde ça, et en fait, on a un point de vue qui est assez neutre, c'est-à-dire que on va pas épouser le point de vue de la victime ni de l'agresseur, et en fait, ça nous met face à notre condition de spectateur, en fait, et on est là complètement impuissant, et pour moi, c'est dans sa mise en scène, en fait, ça invite à la réflexion et à une forme d'introspection, et ça nous met face à notre propre condition, face à nos limites. Et moi, c'est aussi ce que je recherche avec le cinéma. Et c'est pour ça que j'aime ce film, même si c'est sûr que c'est pas une expérience très agréable. Parfois, on peut avoir un rapport assez masochiste au cinéma. Mais certes, c'est une expérience désagréable. Mais moi, en fait, j'aime quand on vient tester mes limites, quand on va venir repousser quelque chose, briser des règles et faire avancer le cinéma, finalement. Gaspard Noé, pour moi, c'est un très grand cinéaste parce que, justement, il va apporter quelque chose de nouveau, il va venir renouveler le cinéma.
Et puis, je rebondis sur ce que tu disais, mais effectivement, ça nous met en position de spectateur, donc on est quand même dans une situation qui est très désagréable parce qu'on est obligé d'observer. Et dans cette scène, on voit aussi passer je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, au début, on voit passer des gens qui assistent et qui, en fait, choisissent de partir. Ouais. Tu sais, c'est horrible parce qu'on se met à la place de ces gens qui, en fait, voient et refusent de voir. Et même, quelque part, n'appellent même pas visiblement d'aide, n'interviennent pas et donc choisissent de partir. Et là, il fait, quelque part, le choix de nous mettre devant ça. De dire, bah non, vous ne pouvez pas partir. Moi, je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant aussi dans cette démarche.
Très bien. Et justement, je voulais rebondir sur... tu as cité un film de Pasolini... Salo et...
Ou les 120 journées de Sodome.
Ou les 120 journées de Sodome. Rappelons que Gaspard Noé est très influencé par ce cinéaste. Et surtout, chacun son avis, et effectivement, chaque avis est différent. Je trouve qu'effectivement, il est très influencé, et notamment par sa branlette intellectuelle. Non, voilà, je vais dire les termes. Gaspard Noé comme Pasolini. Pasolini avec notamment le film Oedipe Roi. C'est très joli, très beau film. Il y a des scènes en plan large qui sont juste là pour... C'est de la démonstration. Et à l'image de cette scène dans Oedipe Roi, Gaspard Noé, avec cette scène de viol, c'est juste de la démonstration, de la provocation. Et c'est de la branlette intellectuelle, comme dans le film Love, plus explicitement, plus concrètement. Et on n'a jamais de bonne distance par rapport à un viol. Effectivement, on le voit d'un peu loin, mais finalement, ça reste la même chose, ça reste la même violence. Même si on est plus lent, plus proche, au final, ça reste un crime horrible fait à une femme. Et donc, moi, je trouve personnellement que le cinéma doit... Certes, casser les limites, briser des thématiques pour aller chercher le spectateur et toujours innover, mais ça a une certaine limite qu'il ne faut pas dépasser.
Mais pas trop quand même.
Ouais. Mais pas trop quand même. Alors, parce que ça dépasse les cadres de l'art pour moi, en tout cas.
Après, je n'ai jamais dit que c'était une bonne distance. J'ai simplement dit que c'était un point de vue qu'il a choisi d'adopter qui était intéressant. Et après, tu parles de branlette intellectuelle, mais une branlette c'est fait pour se faire du bien, donc je ne vois pas le mal. Puis, le produit final, moi, me plaît.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Je trouve quand même que c'est un film qui est quand même choquant. Bon, pour moi, ce que tu appelles branlette intellectuelle, c'est quand même des choses qui sont. Pour moi, ça correspond quand même pas à ça. Surtout que j'ai l'impression que moi, ce qu'on pourrait reprocher un petit peu au film de Gaspard Noé, c'est le fait qu'il représente le viol d'une manière quand même assez fantasmée. On peut peut-être, moi, je pense qu'on peut lui reprocher ça, le fait de mettre quelque part en représentant un viol, il représente tous les viols, en quelque part. Tu disais les viols faits aux femmes, mais voilà, la majorité des viols ne se font pas dans des ruelles, sur des Monica Bellucci portant des petites robes blanches. Enfin, c'est pas la majorité des cas, donc on peut, je pense, lui reprocher ça, mais et encore, moi je trouve que c'est discutable. Mais
après, ça relève aussi peut-être d'un défaut de son cinéma. Et ce qui lui est le plus souvent reproché, c'est que ça manque beaucoup de finesse. Il va souvent beaucoup vers les extrêmes. Et anecdote assez connue, c'est qu'en fait, Irréversible, il a un scénario de 3 pages et c'est quasiment que de l'impro. Et forcément. On va pas se faire chier à avoir un scénario bien ficelé avec des dialogues très travaillés, très littéraires. Mais après, je trouve que ça peut être un défaut, ce manque de finesse, mais en même temps, c'est un avantage parce que on va venir faire du cinéma, on va venir se concentrer sur le cinéma, et le film va s'écrire au moment du tournage. Et c'est ça qui est assez intéressant, et on en tire justement des mises en scène, mais complètement virtuoses et qui sont exceptionnelles. Quoi.
Ouais. Et puis, c'est pas non plus comme... parce qu'à la limite... c'est pas non plus comme un Godard où, tu vois, il y a énormément de citations, où on pourrait se dire qu'effectivement, il met quand même à la rue beaucoup de gens qui n'auraient pas toute cette instruction. Ça, c'est un autre débat, mais là, il y a quand même... c'est un film qui, je pense, peut être regardé par n'importe qui de pas trop sensible.
Irréversible.
Non, mais je dis n'importe qui, il faut un certain âge.
Pas trop sensible, voilà.
Mais je veux dire, t'as pas besoin de références littéraires, de références culturelles. Non, tu peux être choqué, peu importe d'où tu viens. Et je voulais rebondir aussi, tu parlais de violence gratuite, vu qu'on est un peu là-dessus. Qu'est-ce qui est pour toi de la violence gratuite, entre guillemets ?
De la violence gratuite, et à partir du moment où on montre de la violence au film, qui ne sert pas à la narration qui ne sert pas à un but précis.
Un but.
Parce que la violence est désagréable.
Alors là, pour le coup, c'est vraiment le pilier de la narration. Hein,
c'est vrai que c'est un peu le pilier de la narration dans ce cas-là.
Alors, non, le pilier de narration, c'est effectivement un viol. Mais pourquoi le plan séquence de narration n'est pas dans le pilier ? Dans Seul contre tous, il y a un viol. Enfin, il y a un viol. Il y a une relation incestueuse qui se fait. Et c'est aussi le pilier de la narration du film. Mais dans Seul contre tous, c'est la fin du film, c'est la dernière scène. La scène se décale lors de la relation sexuelle qui va se faire pendant ce film. Et c'est très bien. C'est suggérer quelque chose d'interdit, briser les codes du cinéma avec une scène potentiellement choquante, sans forcément montrer quelque chose, forcément provoquer ou démontrer. Dans Irréversible, c'est l'inverse. C'est effectivement un sujet extrêmement grave comme le viol, qui est mis en scène, chacun son avis. Je trouve que c'est une bonne idée de le mettre en scène, ce sujet-là, mais montré de manière gratuite, avec 15 minutes sans cut, encore une fois, comme dans la scène de l'extincteur. Comme dans Love, ça devient gratuit et c'est juste la démonstration pour moi.
Alors, justement, tu disais gratuit qui n'a pas de portée, qui n'a pas de but, mais justement dans Irréversible, c'est ce qu'on a dit, je pense, il y a quand même une portée, en tout cas, cette violence-là mise à l'écran, elle a quand même un but, quand même de pouvoir choquer justement le spectateur à ce point-là, en fait.
Mais on aurait été choqué très bien autrement aussi, par une scène plus courte et avec des cuts.
Comme j'avais dit déjà dans cette mise en scène qui prend une distance froide, c'est que la caméra ne bouge pas et c'est pas. En fait, ça aurait été gratuit et pervers si ça avait fait justement comme dans le célèbre travelling de Capot, en fait, où on aurait zoomé, on aurait fait un travelling avant sur le viol pour bien montrer ce qui se passe. Tandis que là, il le fait pas, en fait. Il nous pose juste là et on est mis face à ça. Et par ailleurs, justement, s'il épouse pas de point de vue de l'agresseur ou de la victime, c'est aussi pour nous laisser, nous, spectateurs, réfléchir, travailler de notre côté. Après, évidemment, on n'a pas besoin qu'on nous dise c'est mal pour qu'on comprenne que c'est mal. Donc, déjà, il y a un certain respect du spectateur. Puis voilà, c'est la caméra, l'objectif n'est pas voyeur.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas. Tu parlais de Capot, c'est pas esthétisé. Là, d'après moi, c'est pas suresthétisé cette violence-là. À mon avis, elle est montrée de manière justement assez crue.
Ah oui,
à la différence.
Très crue, ouais.
Et donc, pour moi, ça porte un propos pour moi. Il le fait pas. Simplement parce qu'il n'avait pas d'idée de plan. Pour moi, c'est vraiment réfléchi. C'est pour ça que je te dis que c'est pas gratuit en mode il s'est pas dit bon, je sais pas trop quoi faire. Non, tu vois ce que je veux dire.
C'est pas la scène en soi qui me dérange, c'est la manière dont il a mis en scène justement.
Ouais, c'est bien, c'est ce que je dis.
Ah, ok, d'accord.
On parlait de la mise en scène de ça.
Ok, ça va. J'ai eu peur qu'il y ait un malentendu parce qu'effectivement, la scène en soi, bon, très bien, je la comprends. Elle sert à la narration, tout ça, c'est tout ce qui se passe autour. La manière dont il l'a mis et toutes les scènes de violence dans Gaspard Noé, dans la filmographie de Gaspard Noé, est toujours mise en avant, à part la scène de Seul contre tous, que j'affectionne particulièrement. Toutes les scènes de violence et de choquantes dans le film de Gaspard Noé sont toujours gratuites pour moi. Et on est avant des réactions différentes, comme vous voyez, avec notamment la réaction au Festival de Cannes, lors de sa représentation en 2002, où les gens sont partis, où on pourrit Gaspard Noé, une vidéo qui est sur YouTube, qui est assez drôle, je trouve. Enfin, drôle, bon.
Sauf quand vous vous appelez Noé, vous prenez
personnellement. Non, c'est Gaspard le réalisateur, hein. Franco Argentin. Et donc je.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, mais je pense que tu le sais, mais Gaspard Noé, lors de cette projection, était en fait à l'intérieur même de la salle, donc à Cannes en 2002, avec une caméra infrarouge, et il filmait en fait les réactions du public.
Ah, c'est fou ça.
Donc il y a quand même. Il le savait très très bien, il était dans ce jeu-là aussi.
C'est ce qu'il fait, évidemment.
Et puis, tu sais,
D'ailleurs, il avait dit aussi dans une interview après la sortie du film qu'il avait une pensée pour les gens qui avaient une carte illimitée au Pathé ou à l'UGC et qui allaient voir n'importe quoi sans jamais regarder et qu'un jour, ces gens-là allaient tomber sur son film.
C'est vrai, on est tous d'accord pour dire que Gaspard Noé sort des codes du cinéma et sort des codes du réalisateur et offre une filmographie choquante qui vient toucher aux spectateurs des endroits qu'ils ne savaient pas. Qui ne sont pas courants dans le cinéma.
Effectivement, après chacun effectivement, va choisir aussi d'aller chacun voir ses films. C'est aussi une certaine démarche quand on va voir un film de Gaspard Noé. On
sait à quoi s'attendre.
À ne pas être très très à l'aise.
Très bien. Écoutez, je crois qu'on a tout. Merci beaucoup. Merci à Noé, merci à Pierre, merci à Gwanda. Est-ce que vous avez aimé
Ça m'a beaucoup plu d'être invité pour ce débat. Donc merci à toi, Martin.
Avec plaisir. Tu rigoles ou quoi?
Non, mais oui, effectivement, il faudra tenir un petit peu Noé à la sortie de l'émission parce que je pense que Martin va être étranglé.
Non, pas de problème.
Mais non, oui, c'était très sympa.
Pas de problème. Bon, on parlera après. Écoutez, merci beaucoup. C'était le Ciné Fight Club pour parler de la violence au cinéma sur Radio Campus 90.8. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Cut!
Et c'était quoi? L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie! Quoi? Sur Campus Grenoble! Sur quoi? Sur le 90.8! Ah! sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.